Bonjour à chacun. On a déjà vécu de bonnes et belles choses par ce temps de chant, de prière. Par nos chants, on dit déjà beaucoup de choses. Et j'aimerais commencer ce message en rappelant le chant sur lequel nous sommes quittés dimanche passé. Je rappelle les paroles. J'ai décidé de marcher dans la vérité. J'ai décidé de vivre dans la sainteté. J'ai décidé de te soumettre mes pensées. J'ai décidé de faire ta volonté. J'ai décidé d'être fidèle à chaque instant. J'ai décidé de brûler d'un feu ardent. J'ai décidé d'avancer au son de ta voix. J'ai décidé de tout faire comme toi. C'est du lourd. Et je me pose la question, en chantant, est-ce que nos cœurs sont vraiment en plein accord avec notre bouche? Le rythme est sympathique, il est entraînant, il nous pousse peut-être à en dire plus que nous ne pensons ou vivons réellement. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une certaine inconscience, une certaine présomption à répéter « j'ai décidé » Le répéter 8 fois. Quand on se sent en forme, quand on est dans une ambiance favorable, quand nos émotions nous emportent, on peut facilement se laisser entraîner à tenir des propos pleins de bonne volonté, mais qui dépassent ce que nous sommes capables de tenir et qui vont se révéler rapidement imprudents. Je veux, je décide, je promets que je suivrai, que je te suivrai, que je te resterai fidèle. On ne peut pas ne pas penser à l'exemple de Pierre. Je te suivrai coûte que coûte, Seigneur. Quoi qu'il arrive, je te suivrai jusqu'à la mort, si cela devait se produire. Et il est dit, et tous les disciples dirent la même chose. Et on sait comment cela s'est terminé. Qui sommes-nous pour tenir de tels engagements, de telles promesses devant les hommes et a fortiori devant le grand Dieu de la création? Mon but ce matin n'est pas de dénigrer ce chant. D'ailleurs, ce chant est réaliste. Il dit aussi « Et si je tombe, ta main me soutiendra ». Donc, nos faiblesses sont aussi sous-entendues. Mais ce chant est un bon prétexte pour moi, pour vous parler de la question importante de notre engagement vis-à-vis du Seigneur. Et dans un premier temps, j'aimerais voir avec vous que nous devons nous engager. Nous devons nous engager tout simplement parce que Dieu nous le demande. Après avoir fait cette mise en garde de présomption, d'orgueil qui serait possible de manifester par une démarche trop confiante en nous-mêmes, il faut reconnaître que chacune de ces paroles s'accorde parfaitement avec ce que le Seigneur attend de nous. Il attend de nous un plein engagement, un amour sans réserve de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre volonté. Et quand on lit la Bible, on voit que tout le texte biblique est parsemé d'impératifs exigeants. Et j'en ai relevé quelques-uns parmi les plus marquants. Dans la bouche de Moïse, par exemple, il s'adresse au peuple de la part de l'Éternel, « J'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction, choisis la vie. » engage-toi. Soyez saint, car je suis saint. Après l'épisode, le fiasco, on pourrait dire, du veau d'or, Moïse s'adresse au peuple et il dit « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel ». Et on savait que ce ralliement était lourd de conséquences, puisque chacun devait ceindre son épée et même mettre à mort des proches s'ils s'étaient rendus coupables de l'adoration du veau d'or. Dans la bouche d'Élie, on entend ceci « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés si l'Éternel est Dieu ?» Allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. On voit que la Bible ne fait pas couler de l'eau tiède. Elle nous appelle à nous situer de façon claire et nous engager pour le Seigneur. Dans la bouche de Jésus aussi, on entend ceci. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Là encore, un choix à manifesté. Le Seigneur attend de l'homme qu'il soit actif et pas simplement passif. Nulle part dans la Bible, on peut se rassurer à l'idée que Dieu se contenterait de demi-mesure, d'à peu près, de compromis pour la vie des hommes avec qui il souhaite être en relation. Et on va lire encore un texte dans le même ordre d'idées. On va le lire ensemble, dans Josué au chapitre 24. On va lire les versets 14 à 18. C'est aussi un épisode où le peuple est appelé de manière on ne peut plus claire à choisir, à décider. Josué 24, au verset 14. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Le peuple répondit et dit, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ses grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. » Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. » On voit que la conviction de Josué a été contagieuse. Tout le peuple s'est engagé pour suivre l'Éternel et pour le servir. Oui. Le Seigneur nous appelle à choisir, à décider, à nous engager pour lui. Il s'agit là des questions essentielles de la vie. De notre réponse dépendent toute la qualité de notre vie ici-bas et dépend aussi notre destinée éternelle. Posons-nous cette question. Est-ce que j'ai répondu à ces questions cruciales? Est-ce que je me suis mis réellement en face de la question? Ou bien est-ce que j'ai cherché à esquiver? Ou bien est-ce que j'ai simplement laissé couler les choses de la vie sans me poser, sans m'interroger davantage? Le Seigneur nous appelle à nous positionner clairement, en recevant, en acceptant son salut, en recevant le baptême, en marchant dans l'obéissance, en cherchant à porter les fruits de l'esprit dont nous parle la Bible, l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, autant de choses qui ne sont pas si naturelles à l'expression de, spontanée de notre vie, et si elles ne sont pas naturelles à exprimer et à donner, on les ressent quand même très naturelles à recevoir. Elles nous font, ce sont des fruits de l'esprit qui nous font beaucoup de bien. Alors, entre ce que nous aimerions recevoir et ce que nous sommes capables de donner, il y a souvent un fossé, mais un fossé qui peut être comblé par la relation que nous avons avec le Seigneur. Alors, mon premier point concernant l'engagement, c'était cela. Il faut s'engager tout simplement parce que la Bible et le Seigneur lui-même, par sa parole, nous le demandent. Et maintenant, j'aimerais voir un deuxième point avec vous. Il faut s'engager même si nos décisions sont fragiles et faillibles. Et si l'un ou l'autre a lu le verset qui suivait juste, après celui auquel je me suis arrêté, toujours dans Josué, chapitre 24, verset 19, on lit ceci. Après qu'il ait invité, et plus que cela, ordonné quasiment au peuple de choisir, dans le même élan, Josué dit la chose suivante. « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint et c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. » Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Et puis, il ajoute au verset 22, « Vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » C'est comme une sorte de menace voilée. On est face à un texte un peu paradoxal, fortement encouragé, convié à nous engager, et en même temps, le Seigneur nous dit, je te demande de t'engager, mais je te dis en même temps que tu ne vas pas pouvoir tenir ton engagement. On se sent un petit peu bancal, un peu déstabilisé. C'est un vrai paradoxe, mais il faut reconnaître que c'est l'enjeu même de la vie dans beaucoup de domaines. Nous devons nous engager, et en même temps, nous n'avons pas les ressources en nous-mêmes de tenir l'engagement. Prenons l'exemple du mariage. La construction d'un foyer, ça commence par un engagement, un échange de promesses entre époux. On sait aujourd'hui, plus que jamais, combien cet engagement se révèle souvent précaire. Alors, la logique voudrait que, puisque finalement les promesses, on a de la peine à les tenir, on ne peut pas les tenir, eh bien, renonçons à l'engagement et aux promesses. Et ils sont nombreux, ceux qui aujourd'hui fonctionnent avec cette logique. Finalement, c'est plus honnête de dire d'emblée que non, on ne va pas s'engager, puisque on sait très bien qu'au bout du compte, on va se trouver coincé, on n'aura pas les ressources pour tenir notre engagement. Heureusement, aujourd'hui, il s'en trouve aussi encore beaucoup qui croient que malgré tout, malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, malgré nos déficiences, il faut continuer à échanger des promesses. Il faut continuer à s'engager. Parce que c'est là un fondement important pour l'avenir du couple, pour sa prospérité, pour sa stabilité. Mais je dirais qu'il en est de même dans notre engagement avec le Seigneur. C'est vrai que nous sommes faibles, C'est vrai que nous trébucherons à maintes occasions, que nous serons déçus, troublés, et pourtant, le Seigneur, comme on l'a vu dans ce premier point, il nous demande de nous engager. La fragilité de nos décisions ne doit pas remettre en cause, en question, la nécessité, l'importance de s'engager. Mais vous me direz, mais alors, pratiquement, qu'advient-il de cet engagement lorsque les difficultés se multiplient, lorsque nous passons par le creuset de l'épreuve, lorsque la motivation se relâche, lorsque le découragement nous enveloppe, lorsque les forces nous abandonnent, lorsque on a l'impression de perdre les pédales, lorsque peut-être on sent la mort rôder autour de nous. Nous sommes engagés pour le Seigneur et tout ce qu'on a pu mettre dans cet engagement commence à nous échapper. On sait combien notre vision des choses peut changer radicalement quand l'imprévu survient dans nos vies. Un gros échec, un revers de fortune, un accident, une maladie, un deuil, tout cela nous rappelle que notre engagement, tout nécessaire qu'il soit, reste fragile, même si nous y avons mis toute notre intelligence, tout notre cœur, toute notre volonté. Parce qu'il arrive des circonstances dans la vie où l'intelligence s'évapore, où le cœur se dessèche, où la volonté vient à manquer. Et j'aimerais maintenant aborder le troisième et dernier point. Il faut s'engager en nous souvenant que Dieu est l'initiateur, le pourvoyeur et le garant de l'Alliance. Cette question de l'engagement a fait l'objet d'un entretien particulier du Seigneur avec ses disciples. Cet entretien a eu lieu quelques jours, quelques heures avant sa mort. Ces entretiens, on les trouve dans les magnifiques chapitres de l'Évangile de Jean, du chapitre 13 au chapitre 17. 3 ans auparavant, les disciples s'étaient engagés avec le Seigneur. Et ils avaient vécu des choses extraordinaires. Ce qu'ils avaient vu, entendu, accompli même, dans la compagnie de Jésus, était extraordinaire. Et cela les confirmait pleinement qu'ils avaient fait le bon choix. Ils avaient payé le prix fort en s'engageant avec Jésus. Ils avaient renoncé à leur profession, à certains à leur famille, mais le prix à payer était peu de chose par rapport à ce qu'ils avaient connu, vécu aux côtés de Jésus. Seulement, dans ces instants, avant que Jésus soit arrêté, ils ont commencé à sentir le vent tourner. Et Jésus, il en savait plus que les disciples au sujet de ce qui allait arriver. Alors, il les a réunis, il les a rassemblés et dans l'intimité, il leur a donné d'ultimes enseignements, d'ultimes encouragements. Et j'aimerais qu'on lise maintenant dans Jean au chapitre 15, juste après la parabole de la vigne, du cep et des sarments. On va lire les versets 12 à 17. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et je relève ce verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, afin, et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et juste après, on ne va pas le lire, mais le Seigneur fait connaître à ses disciples que la vie va être difficile. Dieu les a établis pour aller dans le monde, mais dans un monde dur, hostile, ingrat, matérialiste, incrédule. Jésus dit, ils m'ont persécuté, mais vous les disciples, vous serez persécutés comme le maître. Ce qui vous attend, ce sont des circonstances qui vous coûteront. Et le Seigneur sait bien que si les ressources des disciples, c'est simplement la volonté, les arguments humains, l'amour qu'ils ont dans le cœur pour le Seigneur, l'amour de tout leur âme, de tout leur cœur, de toute leur pensée, de toute leur force, le compte n'y sera pas. Ils ne pourront pas tenir, malgré toute leur bonne disposition, malgré leur engagement, malgré tous les témoignages, le prix qu'ils ont payé pour marcher aux côtés de Jésus. Jésus savait que tout cela serait balayé face aux circonstances difficiles de la vie qu'ils auraient à endurer. Et d'ailleurs, quelques heures plus tard, ils vont donner la triste démonstration par la débandade de Pierre et de tous les disciples lorsque Jésus a été arrêté. C'est pourquoi Jésus tient à leur rappeler cette vérité importante. C'est moi, vous pensez m'avoir choisi. Vous savez, pour bien comprendre ce verset, il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, lorsque un enseignant se promenait dans le pays d'Israël, tous ceux qui étaient intéressés par cet enseignement se rassemblaient autour de lui. Donc, les gens s'agrégeaient autour de celui qui semblait leur apporter une parole pertinente, intéressante, valable. Et donc, ses disciples se réunissaient autour de ce maître, de ce rabbi. Spontanément, c'était leur décision, c'était leur acte libre et complètement volontaire. Mais Jésus n'a pas opéré de cette façon-là. C'est vrai que beaucoup ont entendu ses discours, ses enseignements, et sont venus l'écouter. Mais il est dit, le Seigneur ne se fiait pas à eux. Parce qu'il le suivait, parce qu'il y avait des choses intéressantes à entendre, à voir. Il y avait même parfois l'occasion de manger à sa faim. Hein. Et ça n'allait pas plus loin. Et Jésus n'a pas rassemblé ses 12 disciples de cette façon, simplement par attraction. mais il les a désignés, il les a choisis, il les a nommés, il les a appelés. Et à chacun, il a dit, toi, 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 suis-moi. Et le fait que les disciples se trouvaient là, près de Jésus, certes, les disciples y avaient mis du leur, mais leur décision n'arrivait qu'en second lieu. En second lieu, après la décision préalable qui avait été celle de Jésus de les faire venir à lui et de les intégrer à son équipe. Et il est important pour chacun de nous d'être conscient que notre foi ne résulte pas en premier de nous, de notre raison éclairée, de notre cœur touché, ou bien de notre volonté bien disposée. Tout cela, ce sont des éléments utiles, importants, sympathiques, mais ça ne peut pas être la base de notre foi et de notre relation avec le Seigneur. La foi est d'une autre nature. La foi, c'est un don de Dieu dans lequel nous entrons et que nous cultivons. Et le Seigneur, qui en est à l'origine, en est la ressource et le garant. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et j'ai regardé par curiosité, tout au long de la Bible, ce verbe « choisir ». Alors, comme je suis retraité, j'ai un peu de temps, j'ai compté le nombre de fois où, avec l'aide d'un logiciel, j'ai pas lu toute la Bible pour ça, mais j'ai compté le nombre de fois où le Seigneur, où l'homme choisit de se tourner vers Dieu, ou éventuellement vers les idoles, mais où c'est l'homme qui fait le choix, et le nombre de fois où c'est Dieu qui se tourne vers l'homme et qui, lui, fait le choix. Et, en fait, sur 93 occurrences du mot choisir, du verbe choisir, dans ce contexte-là, évidemment, dans le contexte du choix, soit de Dieu par l'homme ou de l'homme par Dieu, eh bien, dans 85, j'en ai trouvé 93 cas, et dans 85% des cas, c'est Dieu qui choisit. C'est pas l'homme qui choisit, c'est Dieu qui choisit. Dieu a choisi Abraham. Il a choisi Aaron. Il a choisi David. Il a choisi Salomon. Il a choisi la tribu de Lévi pour le sacerdoce. Il a choisi la tribu de Juda pour la royauté. Il a choisi Israël parmi les nations. C'est Dieu qui, tout au long de la Bible, choisit. On est étonné, et les cas où l'homme est appelé à choisir, eh bien, sont beaucoup plus minces. D'ailleurs, j'en ai la plupart des cas les plus flagrants, je les ai énoncés dans mon premier point. Donc, c'est bien clair. C'est pas simplement une parole de Jésus isolée. Toute la Bible témoigne que dans la relation que nous avons avec le Seigneur, c'est le Seigneur qui choisit, c'est le Seigneur qui en est l'initiative, c'est le Seigneur qui en est le porteur, le garant. Quand nous sommes venus à Christ, nous avons été touchés par l'amour de Dieu venu à notre rencontre. Nous avons choisi le Seigneur en toute liberté. Et on peut avoir le sentiment, bah oui, je me suis converti, je me suis tourné vers le Seigneur, j'ai décidé. Et tout cela est juste, mais ce n'est pas le fin mot de l'histoire. Ce n'est pas le plus important. Cette décision personnelle ne vient qu'en second temps, après un premier temps, qui est le fait que Dieu nous ait choisis. C'est lui qui nous a regardés le premier, qui nous a aimés le premier, qui s'est approché de nous le premier. La foi, ce n'est pas l'homme qui cherche à s'élever vers Dieu à la force, pas du poignet, mais à la force de son âme. On a le sentiment que la foi, c'est une démarche personnelle qui tient à la force de notre caractère, la force de notre âme. Non, la foi ne relève pas de cet ordre de choses. La foi, c'est l'homme qui entre en confiance dans l'alliance que le Seigneur a préparée pour lui. Alors, pour conclure, je dirais que si c'est Dieu qui est à l'origine, alors je suis gardé de toute présomption. Je vais dire, je m'engage, je décide, je peux chanter le chant. Mais en arrière-plan, je me souviens que le Seigneur est à l'origine de toute chose. Et le jour où je n'aurai plus de force, où les circonstances deviendront difficiles, où je serai pressé, mon âme sera pressée comme un citron, il n'y aura plus rien, plus de jus, il n'y aura plus de force pour m'accrocher au Seigneur. Alors, je sais et je saurai que si je n'ai plus la force de m'attacher au Seigneur, le Seigneur m'a attaché à lui. Et c'est là l'essentiel. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Si tu repasses dans ton cœur cette vérité, tu seras gardé autant de l'orgueil de te croire capable que du découragement de te sentir incapable. Le Seigneur met toute chose à sa place. Et il ne dénigre pas, évidemment, que les disciples se soient répondu à son appel. Il leur a dit « Toi, suis-moi », et les disciples ont suivi. Ils ont pris leur décision aussi, mais dans un contexte tout différent, beaucoup plus sécurisant pour notre avenir face aux circonstances difficiles qui peuvent nous atteindre, circonstances du monde extérieur et parfois circonstances tout simplement de notre cœur, où on connaît des passages à vide. Et je termine par cette remarque. Quand, au moment même où Pierre assurait bien imprudemment à Jésus qu'il ne le lâcherait jamais, dût-il mourir avec lui, que faisait Jésus ? Il lui dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Pierre, à ce moment-là, il était dans la logique de celui qui avait choisi Jésus et donc qui devait prendre sur lui de rester ferme, fidèle. Et Jésus dit, attends, Pierre, je sais la malice de Satan. Je sais les circonstances difficiles que tu auras traversées. Je sais que tu seras criblé comme on crible le froment et tous les disciples avec toi. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Quelle paix, quelle sécurité, quelle assurance de pouvoir vivre dans la conscience que le Seigneur nous a précédés en tout, a tout accompli, a tout prévu et nous a préparé cette alliance éternelle. On veut prier ensemble. Seigneur, nous t'ouvrons notre cœur. Tu sais nos enthousiasmes, nos bonnes dispositions, mais tu sais aussi nos faiblesses, nos égarements, nos lâchetés. Tu sais combien nos sentiments peuvent changer selon les circonstances que nous traversons. Nous avons besoin de trouver en toi l'encre de nos âmes. Merci Seigneur, parce que tu as établi pour nous cette alliance de grâce, une alliance éternelle, en tout point bien réglée, offrant pleine sécurité. Merci pour ce que nous avons en ta présence. Accorde-nous, Seigneur, de te rester fidèles. Nous en avons le désir, mais nous savons que toute ressource vient de toi. Amen.